Les Cascodeurs Podcast, épisode 283, mini-interview, comment améliorer ses présentations. Enregistré le 8 juillet 2022.
En fait, c'est pas vraiment une interview, mais c'est un extrait d'un épisode news, mais qui est dans lequel on a beaucoup mélangé non seulement l'article, mais aussi les perspectives des cascodeurs, des différents cascodeurs. Et puis, on a trouvé que c'était assez intéressant et assez concentré sur un sujet qui est justement travailler ses présentations pour qu'elles soient meilleures. Et du coup, on vous le propose en mini-interview. Voilà. Eh ben, n'hésitez pas à aller sur le Google Group des Cascodeurs pour nous dire ce que vous pensez de ce genre de format. Alors ensuite, on va parler de présenter en fait. Gunnar Morling partage ses conseils et astuces pour faire des meilleures présentations aux conférences ou ailleurs d'ailleurs, parce que c'est les mêmes choses.
Ouais, j'ai bien aimé son petit article, donc il y a quelques... un peu règle d'or. Alors après, tout le monde les applique pas forcément, mais donc répéter, c'est le premier conseil. Plus on répète, mieux on sera prêt, on aura nos phrases, nos enchaînements plus automatiques. Mais par exemple, moi, en tout cas, je déteste répéter, je fais jamais les répétitions entières. En fait, c'est quand j'écris, moi, mes slides, mon contenu, que je me répète des bouts en fait dans la tête, mais jamais je m'amuse à répéter, mais c'est néanmoins un excellent conseil.
Ça fluidifie, ça maîtrise votre temps.
Ouais. Moi, c'est pour ça que je répète. C'est plus pour le temps, en fait.
Ouais. Après, la première fois que tu dis le truc, tu dis « Ah, ça, c'était vraiment merdique comme explication. Ouais. » Et puis du coup, la deuxième fois, tu t'améliores. Enfin,
mais moi, si tu fais dans ta tête, je répète pas 40 000 fois, mais au moins deux, je pense. Deux, après, parce que ça me permet de caler le temps, de virer des slides, de passer sur, ou si c'est trop court, en rajouter, ou des choses comme ça, quoi.
Mais c'est plus, ouais, moi, c'est plus à la création où j'ai un peu où je fais cet exercice-là. Ouais. Et puis après, il y a quand même certaines présentations que je donne plusieurs fois. Donc, c'est pas du one-off. Donc,
tu répètes avec cinq clients, puis le sixième.
Voilà, si tu veux. Après, c'est plus vraiment de la répétition. Ouais. Démarrer par une mission, c'est-à-dire avec une sorte d'objectif, c'est-à-dire là je vous fais cette présentation là, mais quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux que vous en retiriez, et en fait ça permet des fois de mieux, alors le sujet est généralement plus intéressant quand on a un objectif clair. Ça permet aussi, parce que des fois on a du contenu, on a beaucoup de choses à dire, par exemple quelles sont les nouveautés de Quarkus, Emmanuel, et là il va me sortir toute une liste de 40 000 features. Bah, c'est horrible à suivre une présentation comme ça. Enfin, je dis pas spécialement que Emmanuel fait des présentations horribles. Non, loin de moi. L'idée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ça permet aussi de savoir où est-ce qu'on veut couper, ce sur quoi il faut insister, etc. Donc, c'est pas mal d'avoir.
Moi, je dirais même. Un objectif. Commencez par ça. Commencez par votre abstract, en gros. Et ouais. Votre abstract, il doit dire pourquoi les gens vont être dans la salle. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre et pourquoi ils vont passer le temps avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre.
Ouais.
Et ça va vous... Déjà, vous allez vous dire, ah ben non, en fait, c'est peut-être intrinsèquement intéressant, mais sur des gens très captifs. Ou alors, non, voilà mon angle. Mon angle, c'est... Quarkus, c'est top pour le développement super rapide, interactif de microservices. C'est comment vous allez gagner du temps. Et donc là, j'ai dit, ah ouais, moi, j'ai un problème, j'ai trop de trucs à faire. Je vais à la présentation. Et du coup, sur les 40 fonctionnalités Quarkus, il y en a peut-être 5 et on se focalise là-dessus.
Voilà. Et du coup aussi, au-delà de la mission, c'est aussi de raconter une histoire. C'est-à-dire, par exemple, là, moi, j'ai un talk, un sujet qui marche pas mal sur que j'ai donné déjà à Devox, sur la chorégraphie et l'orchestration de services, de microservices, etc. Et en fait, je raconte aussi une histoire, c'est-à-dire que derrière ce que je présente, c'est aussi un retour d'expérience sur ce que j'ai fait, ce que j'ai appris en écrivant une application avec telle approche. Après, je l'ai réécrit d'une autre manière. Et voilà ce que j'ai appris, les avantages, les inconvénients. Ça permet aussi de rajouter un petit peu de lien, du pourquoi, comment, etc. Ça, c'est assez important. Idéalement, évidemment, vaut mieux regarder son auditoire et non pas les slides. Genre, tu sais, des fois, tu vois une personne qui a la tête tout le temps tournée vers les slides et cause pas regarder les personnes. C'est mieux si on peut établir un contact visuel. Et en général, alors, il y a beaucoup de gens aussi que ça aide, en fait, de faire un contact visuel avec les gens. L'autre aspect qui, enfin, en tout cas, moi, est important à mes yeux.
Ah ben, ça aide vachement les gens qui vous écoutent, hein. Déjà.
Ouais, et puis aussi.
Vous vous rendez
même...
pas compte, mais pour que les gens ils soient intéressés, qu'ils soient
bien
engagés,
sûr.
C'est
ouais.
absolument critique.
Ça, c'est clair. Et d'autre part, moi, ça m'aide beaucoup. En fait, mes talks, c'est assez fluide dans le sens où je m'adapte aussi en fonction du regard des gens. Donc, c'est important pour moi de les regarder parce que je me dis.
Quand t'as le mec qui ronfle au premier.
Soit ça, soit ils font des gros yeux ou ils capteraient.
Oui,
ils froncent les sourcils. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Alors, tu dis, bon, je vais peut-être revenir un peu plus au basique, réexpliquer
alors,
les bases.
Alors, mon sectoïde. Alors, qu'est-ce qu'un
voilà.
sectoïde?
Non, mais ça paraît pas, mais assez. Intuitivement, tu arrives quand même. Alors après, t'as des grandes salles des fois, genre Devox Belgique, c'est à 6 débats, les gens ils sont à 15 mètres dans le noir, tu vois pas trop. Mais Devox France, c'est déjà, t'arrives mieux à voir les gens, par exemple. Enfin, dans la plupart des salles, peut-être moins dans l'amphi bleu. Mais du coup, tu arrives juste en regardant un petit peu à voir est-ce que les gens sourient quand t'as fait une blague ou alors vraiment ils s'en foutent totalement. Ça, il y a plein de petits indices visuels qui t'aident du coup après à adapter aussi ce que tu présentes, la manière dont tu le présentes. Et des fois, bah.
Enfin, je vais mettre un petit bémol parce que.
Ouais.
Il y a les gens de ton calibre qui sont capables de réagir en direct à ça.
Ouais.
Sans être décontenancé, mais bon, ça s'apprend quand même. Hein. Il faut prendre de l'expérience.
C'est l'habitude, donc, je pense.
Ouais, mais au début, quand tu commences et que tu vois ça, mais qu'en fait, t'es déjà pas super à l'aise avec ta façon de parler ou ton talk, faut avoir les épaules.
Ouais,
donc,
tu te poses peut-être. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Retenez-le et pour aller retravailler offline pour la prochaine fois vous présenter, oui. Mais être capable d'adapter en direct, bon, et ça demande du métier.
Ouais, c'est vrai. Non, tu as raison. Et tout à l'heure aussi, quand on parlait de temps, enfin de répétition et de la gestion du temps, ça aussi, du coup, c'est important parce que ça va te permettre de voir si, enfin, parce que moi, des fois, il y a certaines présentations, mais la même présentation, j'ai 40 minutes pour la faire, ou des fois une heure et demie. Et j'arrive quand même à gérer aussi des fois des formats qui sont finalement complètement différents. Alors, je vais être plus bavard, peut-être prendre plus de temps ou rentrer plus dans les détails, montrer plus le code. Mais encore une fois, le contact, moi, du coup, avec le regard des auditeurs, ça m'aide beaucoup à m'adapter par rapport à ça et à m'adapter au temps, à m'adapter en termes de contenu. Mais je dis pas, en tout cas, que c'est facile et que c'est inné de toute façon. Donc, ce qui est important quand même, mettre moins de texte sur les slides. Aujourd'hui encore, on voit beaucoup de... Enfin, non, moins quand même. Mais on voit encore quand même régulièrement des présentations avec beaucoup de texte.
Tu vois des presses internes des fois de boîtes.
Oui.
Je sais pas si des fois,
ouais.
tu as la chance d'assister à des presses internes de boîtes parce que tu passes avant ou après. Bon.
Mais même, tu vois, par exemple, il y a... Alors, c'est marrant, mais moi, je travaille de temps en temps avec les équipes UX en interne. Donc là, c'est même pas, tu sais, des clients qu'on voit, etc. Et en fait,
c'est ton ex.
Ouais. Non. User experience. Et j'ai remarqué ça souvent. Ils ont des présentations avec beaucoup de texte, mais en fait, ils utilisent le support des slides comme un format de discussion et pas tant un format parce qu'ils vont pas lire tout ce qu'il y a écrit, mais comme un support pour échanger des idées également en offline. Donc c'est vrai qu'il y a ceux qui mettent beaucoup de, enfin plus de texte, pas forcément beaucoup, mais là c'est l'exemple peut-être un peu le plus exagéré, je dirais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien voir ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça comme ça, des slides autoportants, c'est-à-dire moi je peux regarder les slides et je sais ce qui a été dit, les points clés, etc. Et ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de présentations aussi aujourd'hui où on va à l'extrême et on met juste une image ou peut-être juste un mot. Et là, bah, c'est une expérience que tu vis au moment où la présentation est donnée, mais évidemment, ces slides-là ne sont pas du tout autoportants et on ne peut pas les re-regarder après et savoir ce qui a été dit. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver un juste milieu
Alors,
et éviter de lire trop ces longs textes.
Je sais pas si vous avez lu ce superbe livre que je recommande à toutes celles et tous ceux qui veulent parler, hein. Présentation zen de Gar Reynolds. Et je l'avais lu, moi, il y a quelques années, parce que c'est un vieux livre. Hein. Et donc, il parle de plein de recommandations comme ça. Et lui, là-dessus, eh ben, il dit carrément, et c'est vrai qu'il n'a pas tort, ce sont deux formats différents, pour deux publics différents, pour deux présentations différentes. Donc, vous faites deux supports. Tu vois, il dit, lorsque vous parlez, vous faites un talk, bah, une image, un mot. Et si vous avez besoin, tu vois, typiquement mettre tes slides sur un slideshare ou un truc en interne, où effectivement, comme tu dis, ça fait pas sens, et bah là, utilisez un autre format. Donc, c'est un peu de contrainte, mais c'est vrai que dans Présentation Zen, il parle de tout ça, répéter, etc., etc. Et il parle de ces deux formats. Et c'est vrai que je l'ai fait à quelques reprises où je vais plutôt commencer par des slides assez verbeux. Et puis après, je fais du coupé, pas collé, mais je coupe des choses et je vais créer un deuxième deck de slides beaucoup plus édulcoré.
Parce que ça amène aussi, je dirais, au point suivant, c'est-à-dire personnaliser la présentation en fonction de l'auditoire. Donc ça peut être aussi ça, ça peut être personnalisé du coup pour des formats et des durées différentes. Ça peut être pour un auditoire différent aussi. Après, c'est quand même pas mal de travail, hein, donc c'est pas toujours évident à faire. C'est un travail supplémentaire. Moi, ce qui m'arrive de faire, en tout cas, c'est de j'essaie d'adapter mon contenu, c'est-à-dire que je vais mettre des slides en caché parce que là, je sais que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, il faut que je coupe. Et des fois, si je veux vraiment plonger un petit peu plus dans un aspect donné, bah, j'ai du contenu supplémentaire que je peux activer, montrer ou pas, par exemple. Donc, sans forcément avoir des présentations complètement séparées. Une autre règle, c'est la règle de 3. Alors, c'est un peu, apparemment, selon lui, en tout cas, un chiffre un peu magique. C'est la règle de 3, c'est couvrir 3 points clés. Pas 10, pas 1, mais 3. 3 leçons retenues, partager 3 conseils. Et il trouve que 3, c'est le bon chiffre, le bon nombre.
C'est quoi, par slide ou par presse?
Ça peut être, quand tu parles de points clés, ça peut être, tu vois, les 3 features clés de Quarkus 2.40013. Après, les 3 leçons partagées, retenues, ça peut être à la fin. Moi, des fois, j'ai, voilà ce que j'ai appris, je vais en retenir. Enfin, je fais pas spécialement 3, j'ai jamais vraiment réalisé si je faisais ça par 3 ou par 5 ou par 2, mais c'est vrai que j'ai rarement plus de 5 trucs, en tout cas. Si j'ai avantages et inconvénients, je vais jamais avoir plus de 5 avantages, 5 inconvénients, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a, faut trouver, je pense, le bon nombre. Alors, 3, peut-être que c'est un peu le chiffre magique, ouais. À différents niveaux, tu vois. Un autre conseil, avoir une solution de secours pour les démos. Alors, les démos, à Vox Days Luxembourg, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, Internet qui tombe. Alors, au début, on croyait que c'était le Wi-Fi, mais c'était carrément Internet qui tombe. Et donc, du coup, moi, comme je fais du cloud, je fais des démos dans le cloud. Et ma démo, elle commence à foirer. Alors, je me dis, il doit y avoir un cold start sur mon microservice, machin, tout ça. Je commence à me demander ce qui se passe. Et en fait, non, c'était juste Internet qui foirait. Alors après, je plug Ethernet, parce qu'il y avait aussi, j'étais sur le Wi-Fi que je recevais pas bien. Je me suis dit, c'est peut-être à cause de ça. Après, il y a, c'est PAG qui vient sur ça. Eh, vas-y, t'es plugué en Ethernet. Ouais, allez, je me plug sur Ethernet. Mais il devait y avoir des choses encore en cache. Alors je me demande si les Mac ou le navigateur, en fonction de ce que tu as branché, si tu es en Wi-Fi ou en Ethernet, ils cachent peut-être pas la même chose, j'en sais rien. Enfin, c'est une impression que j'ai eue, mais je me suis posé la question. Et je vois un bout de page qui s'affiche, mais en fait, bon, c'était juste Internet qui tombait. Et du coup, ma démo a pas mal foiré. Et donc là, il dit, faut avoir une solution de secours. Donc ça peut être soit un plan B, quelque chose qui tourne en local, même si tu peux pas forcément tout montrer. Ça peut être, moi j'aime pas trop forcément faire ça, mais ça peut être aussi des vidéos préenregistrées d'une vidéo qui fonctionne.
Super fan ça, oui.
Bah, ce qui est
après,
plus
tu peux
sympa,
montrer
général,
le code aussi.
Oui. Tu peux montrer le code.
C'est comme ça que je fais des fois.
Non, mais j'ai déjà vu faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais
si, ouais.
Et je sais que je n'étais pas super fan. Alors, en plus, les cas où j'ai vu une vidéo, c'est même pas le speaker ou la speakeuse qui a un problème avec une démo. C'est que sa démo est enregistrée déjà, quoi.
Ouais.
Et j'ai vu ça 2-3 fois.
J'en ai vu un qui était juste magnifique, c'est Dierk Koenig,
de
Groovy's Fame.
Ouais, vas-y.
Et là, qui dit, bah voilà, Groovy, c'est super. Et donc, on le voit, il fait sa presse et il tape en live et il fait
des démos
en live. Et puis, il dit, mais Groovy, c'est quand même très efficace. On tape, on est vraiment très efficace. On peut même aller très, très vite. Je vois taper, tu dis, putain, la vache, quand même, il est chaud bouillant.
Ah, pas mal, il avait tout enregistré.
Et Groovy, c'est tellement bien, en fait, ça fait tout seul et il s'en va.
Ça fait tout seul. Pas mal.
Et le truc, il continue. Bon, là, il a transformé l'outil.
Il a hacké.
Vraiment très bien.
Ouais. C'était vraiment génial parce que, enfin, du coup, c'était très, très drôle à voir.
Oui.
Oh, au début, tu te dis, oh putain, mais comment il fait
ça? Après, il est fort.
C'est ça, on tape vite.
C'est un des meilleurs trucs que j'ai vu, ça, effectivement. Après, il y a un autre truc, moi, qui m'avait impressionné. C'était quand même dans les premières conférences que je faisais où j'avais vu Venkat Subramaniam, qui, en fait, en pleine présentation et démo, etc., ça devait être un Mac, je pense, quand même, à l'époque, déjà. Son Mac, il plante. Et il est tellement bon speaker que, enfin, tu ne l'aurais regardé que lui ou tu n'aurais fait que l'écouter. Limite, tu sais même pas que son PC, son Mac avait rebooté, relancé, qu'il a tout relancé, toutes les applis, tous les slides, tous les démos, tous les terminaux. Et j'étais là, mais attends, comment il fait pour rester concentré, faire tout ça en parallèle? Des fois, il y a vraiment des gens qui sont incroyables.
Bon, après, lui, il a fait 200 fois sa presse. Donc,
oui, bien sûr.
Mais 24, il a. Si vous n'avez pas vu de talk de 24, il faut au moins en voir un.
Ouais.
Alors, moi, je sais que je suis pas toujours super fan. Parce
après,
que comme il raconte
de la vulgarisation,
d'histoires, voilà, aussi, et puis il raconte beaucoup d'histoires.
Ouais.
Et c'est vrai qu'une conférence de 3 heures, il pourrait facilement la faire en une. Mais allez jeter un œil quand même, parce que c'est assez bluffant. Il écrit pendant qu'il parle, c'est-à-dire qu'il vous dit une phrase et plutôt que de la mettre sur un slide et la lire sur un slide, non, il écrit la phrase souvent sur VI ou des trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Donc il est hyper étonnant. Moi, je sais que je suis pas toujours fan, mais étonnant.
Alors, dans les deux derniers conseils, qu'est-ce qu'on a? Il faut jouer sur ses atouts. Alors là, en particulier, il y a certaines personnes qui parlent très vite. Après, on va dire, essayer de parler plus lentement, de faire des blancs, des choses comme ça. Mais des fois, c'est pas facile d'aller contre sa nature, ses habitudes. Donc, faut savoir jouer de ses atouts. C'est-à-dire que là, peut-être qu'au contraire, cette
This is your destiny.
Bruitage à la bouche par Emmanuel Berla. Peut-être que justement, au contraire, il faut jouer sur cette énergie que ça peut donner à son argumentaire. Donc il faut des fois essayer peut-être de jouer sur sa nature, ses atouts, la manière dont on parle. Là, c'est pas forcément évident. Hein.
Mais si par exemple. En fait, faut pas se dire je vais parler plus vite pour mettre plus de choses. Donc, mais ça revient au point d'avant, d'accord.
Si
tu dis je parle vite, c'est pas grave, je vais répéter 3 fois. De toute façon, faut répéter les trucs.
Ouais.
Parce que c'est comme ça que ça passe. Là, je vous l'ai déjà dit que ça. Là, voilà. Bon, après, on peut jouer avec plein de trucs comme ça.
Ouais.
Et ça permet aux gens de se dire, ok, ouais, c'est ça qu'il a dit, si vraiment vous parlez trop vite par rapport.
Mais après, ça nécessite en tout cas une certaine maîtrise et expérience, parce que quand t'es stressé, etc., c'est pas facile vraiment de jouer sur ces atouts-là au début.
Bon, et puis après, il y a un peu la barrière de la langue. Moi, je cite souvent Matt Rebel. Matt Rebel, il parle vite. Et il a un accent à Merloc, à couper au couteau, et c'est pas toujours évident. Donc, c'est sûr qu'aller voir Matt et lui dire, tu pourrais pas parler lentement avec un British English, please?
Mais d'ailleurs, après.
Il dit non, je peux mettre un OPAP si tu veux, mais.
Ah oui, bleu.
Bleu.
Et en fait aussi, c'est vrai que c'est pas la même chose. Par exemple, quand je parle en français et que je parle en anglais, j'ai plus de débit en français, je peux improviser quand même plus facilement qu'en anglais.
Les presses sont plus longues en français.
Et souvent, finalement, les presses sont plus longues en français parce que je papote, je digresse, j'essaie d'être plus drôle aussi puisque je suis un peu moins drôle en anglais. Enfin, il y en a qui me trouvent peut-être pas drôle en français non plus, mais bon, ça c'est un autre.
Après, comme débat. Comme
on attend tous vos retours là-dessus, vous les envoyez pas.
Ouais. Non, mais après, comme notre métier est très technique anglais, c'est vrai que ouais. Parler en anglais, lorsqu'on parle bien anglais, en fait, hein, je trouve que des fois c'est pas mal parce que en français. Qu'est-ce qu'on anglicise énormément, enfin,
tellement, tellement.
Ouais, ouais. Donc parfois on trouve pas nos mots en français, on met des trucs anglais, clusterisation, machin, pas bon, bref. Et parfois, ouais, je suis limite un peu plus à l'aise en anglais, bon, parce que je maîtrise un peu la langue, mais comme notre vocabulaire technique est toujours anglais, bon, au moins j'ai pas à me dire alors cluster. Comment on dit cluster? Bah cluster.
Je sais pas. Et bah remarque, on parle bien de cluster Covid, alors on ouais, l'utilise tellement en français. Oui. Donc. Et dernier conseil, faire des retours en arrière. Alors dans le sens, donc on a avancé, on a avancé des choses, des arguments, et bah on va donc après on explique, on montre, etc. Et après on peut conclure pour dire, alors voilà, on avait dit au départ que ceci, cela. Et bah vous voyez qu'effectivement ça a donné ceci quand on a fait ça. Donc c'est-à-dire de bien redonner du lien un petit peu au discours et de redonner des points clés en quelque sorte pour relier les différentes sections. Donc ouais. J'avais dit qu'on allait faire ça, je l'ai fait. Voilà ce qu'on a appris, voilà comment ça fonctionnait. Donc ça c'est pas mal aussi comme. Ouais.
Moi je trouve surprenant.
Et c'est pas facile.
Quand on a tourné, tu fais ta presse.
Ouais.
Tu penses avoir plutôt bien fait, tu vois les gens qui ont bien capté. Et tu as toujours quelques questions où tu vois que les gens, en fait, ils ont pas
écouté.
La structure que tu croyais limpide, en fait, elle n'a pas été limpide pour eux. Et du coup, ça, toutes ces notions de on revient en arrière, on le relie, on réexplicite les liens, ça permet aux gens de connecter des choses, en fait. Donc, c'est ça. On utilise ce temps-là, donc j'entends que vous avez parlé encore moins de choses que ce que vous aviez prévu, mais c'est important.
Donc voilà, on a fait le tour des différents conseils.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.